With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
2,21 chicorois! Mon Dieu! Recherche, scanner.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Vous allez voir, ça passe très vite.
C'est fou ce que le temps passe. Il est déjà midi.
10 ans déjà? J'ai l'impression que c'était hier.
Oh là là, comme le temps file.
Qui n'a pas entendu ce genre de banalité dans la bouche de ses grands-parents ou de copains que l'on n'avait pas vus depuis un bail? Et ils ont bien raison, il y a des vérités qui font mal aux rides, le temps passe. Que l'on ait vécu 5 ou 85 ans, les secondes et les minutes déclenchent leur tic-tac à la même vitesse, implacablement. Tout le monde s'accorde là-dessus, sauf notre cerveau. Dans notre tête, la perception du temps obéit à ses propres règles. Ainsi, un senior aura le sentiment que les années passent en un claquement de doigts, tandis que les vacances d'été d'un élève de CM2 dureront une éternité. Ces fluctuations, psychologues, biologistes et neuroscientifiques tentent tant bien que mal de les expliquer depuis quelques années. En parlant de choses qui durent plus que de raison, mes invités du jour auraient dû chronométrer cette introduction. Pour cet épisode estival, nos maîtres horlogers sont au nombre de 3, uniquement des visages et des voix bien connus de nos micros. Je m'appuierai sur 2 ambassadeurs de la rédaction de Sciences et Avenir. Elena Sender, tu es spécialiste des neurosciences. Bonjour Elena.
Bonjour.
Alors à tes côtés, on retrouve un autre habitué en la personne de ton collègue Hugo Jalinière, expert santé. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Sans elle, les aiguilles du temps ne tournent plus rond. Notre dernière invitée, à la fois taulière et ténor de l'émission, se prénomme Anissa Boumediem. Et c'est la journaliste santé de 20 minutes. Bienvenue Anissa.
Salut Romain.
Je ne vais pas être très élégant puisqu'on va commencer avec toi Hugo. Alors pire, je vais même affirmer des banalités assez évidentes comme « plus on vieillit, plus on a l'impression que le temps passe vite ». Comment ça se fait qu'on partage un peu tous, en grandissant, cet état de fait?
Alors c'est vrai que c'est un sentiment très partagé, il faut quand même nuancer, parce que chez les personnes très âgées, en maison de retraite, parfois le temps d'une journée peut paraître très long, au contraire d'un élève de CM2 en vacances d'été, dont la journée bien remplie, il pourra avoir l'impression que c'est passé en un claquement de doigts. Mais ça dépend de l'échelle qu'on prend. Si on prend sur les années ou les saisons, c'est vrai que la plupart du temps, chez les plus de 30 ans, on a l'impression que les anniversaires se répètent plus rapidement, que l'hiver vient plus vite. Et apparemment, ça, c'est de pire en pire en vieillissant. Alors, pour ça, il y a une théorie assez simple qui explique ce sentiment très partagé. Une échelle logarithmique qui explique ça, qui est un enfant de 2 ans, une année, pour lui, c'est l'équivalent de la moitié de sa vie. Quand on a 10 ans, c'est 5 ans, et ainsi de suite. Si bien qu'il y a un professeur de biomathématiques à l'université de Bath, au Royaume-Uni, le docteur Christian Yates, qui a mis sur papier cette échelle logarithmique, un peu comme celle de l'échelle de Richter. Plus on avance dans les degrés, et plus l'écart entre les degrés est important. Je m'explique. Selon lui, la durée perçue entre nos 5 ans et nos 10 ans serait équivalente à celle qu'on perçoit entre nos 40 et nos 80 ans. En fonction de cette échelle. Voilà. C'est un peu déprimant, mais c'est une façon simple d'expliquer pourquoi on a l'impression que le temps passe plus vite en vieillissant.
Il me semble que c'était hier. Mais les années passent. Moi, je ne m'en rendais pas compte, c'est mon secrétaire l'autre jour qui m'y a fait penser.
Ça, c'est vraiment la base, quoi. C'est une explication purement mathématique. Arithmétique, quoi.
Oui, alors c'est une façon très théorique d'expliquer un phénomène finalement psychologique forcément plus compliqué. On pourrait aussi rappeler à cette occasion que plus le temps passe et moins il nous en reste. Ça enchantera pas nos vacances, mais c'est important de le dire. Cela dit, il y a d'autres explications. Cette base théorique a été reprise par le docteur Adrian Bejan, professeur de mécanique à l'université Duke de Caroline du Nord. Et alors, lui a mis en lumière ce phénomène, mais de façon plus précise, en prenant des phénomènes biologiques neuronaux qui montrent qu'il y a un effet routine avec l'âge qui va s'opposer à la magie de l'étonnement de l'enfant. Pour faire simple, il explique en gros que la perception du temps qui passe est fonction des perceptions, des stimuli que reçoit notre cerveau. On voit le temps passer quand on voit des images ou des sensations changer. Or, chez l'enfant, tout est nouveau. Il y a cet étonnement. On rentre dans une voiture, la portière, les boutons, tout est nouveau. Pour un adulte qui est monté, qui ne compte plus le nombre de fois où il est monté dans une voiture, les choses sont plus. Il n'y a pas cet étonnement. Il y a un effet routine qui s'installe et qui, selon lui, expliquerait ce sentiment étrange.
Et en plus, là, tu me donnes vraiment. C'est une voie pour la suite. C'est qu'en gros, il y a un double hic dans cette affaire. C'est qu'à la fois, avec l'âge, on découvre fatalement moins de choses nouvelles. Et en parallèle, la capacité du cerveau à traiter les stimuli va pas en s'améliorant. C'est-à-dire que c'est de plus en plus lent. Donc, les choses prennent à la fois plus de temps et les journées sont moins pleines. Résultat, on a l'impression que le temps passe plus vite.
C'est ça. Alors, les journées sont moins pleines pour un adulte. Il faut voir, parce qu'on travaille quand même pas mal, généralement,
oui,
plus qu'un enfant. Mais tout ce qu'on perçoit, on l'a déjà perçu avant. Un enfant, la plupart des choses qu'il va percevoir, c'est quelque chose de nouveau qui donc occupe plus de place, demande plus de traitement au cerveau, ce qui n'est pas le cas chez l'adulte, et plus il vieillit, plus c'est le cas. Et l'autre chose que ce chercheur met en lumière, c'est de dire que nos réseaux de neurones se dégradent avec l'âge aussi. Donc il y a une espèce de performance moindre, où les perceptions, les stimuli sont moins rapidement traités. Et c'est ce qui, selon lui, expliquerait ce sentiment du temps qui passe plus vite.
En gros, même en se forçant, en fait, on aurait quand même moins de stimuli dans la journée. C'est-à-dire, même si on se forçait à être curieux et à découvrir plein de choses, on pourrait traiter moins d'informations.
Alors,
qu'un enfant.
C'est pas dit, parce qu'une des façons d'allonger son temps quand on est adulte pourrait être d'apprendre des choses très différentes, apprendre une nouvelle langue, voyager, voir des choses qui nous étonnent et qui réactivent cet étonnement enfantin vis-à-vis de la nouveauté. Et là, peut-être qu'on aurait une impression que le temps passe moins vite.
Ok, mais là on reste vraiment dans des champs très théoriques, j'ai l'impression, parce qu'on parle, c'est ça, d'un temps psychologique. Il y a les études, est-ce qu'elles vont aller plus loin? Qu'est-ce qu'on va en faire en fait de tout ça?
C'est compliqué à étudier, mais c'est vrai, t'as raison, ça reste très théorique ces travaux. Et puis il faut aussi bien voir que le temps qui passe plus vite, c'est jamais qu'une impression. C'est du domaine de la psychologie, c'est pas évident à étudier, et on sait bien que nos sens nous trompent. Donc, il faut quand même rappeler que le temps passe toujours pareil. Hein. La trotteuse...
elle bouge pas.
Elle bouge, mais toujours au même rythme.
Oui, c'est ça, exactement.
Mais il n'en reste pas moins que c'est une sensation qui est... On peut essayer autour de soi, hein, demander à quelqu'un de 40, 50, 60 ans, est-ce qu'il a l'impression que le temps passe plus vite? Moi, j'ai trouvé personne qui me dise le contraire.
Il n'y a pas de temps à perdre. Anakin, est-ce que tu me reçois? Ici Obi-Wan Kenobi.
Je me tourne vers Elena, parce qu'au-delà de cette question de l'écoulement du temps, il y a la question de la perception. Comment notre cerveau il réagit au temps et comment il s'organise par rapport au temps? Donc en gros, c'est la vraie question derrière celle-là, c'est comment fonctionne notre horloge biologique, qui est un terme qu'on entend beaucoup.
Alors le cerveau a trois horloges, et dans ces trois horloges, on a l'horloge biologique. Alors c'est quoi? Vous savez, le soir, on regarde sa montre, on se dit « Oh, il est 22h30, 23h, faudrait que j'aille me coucher ». On a besoin de regarder sa montre pour se le dire. Mais notre cerveau, lui, il sait à quelle heure il faut se coucher. Et il a vraiment une activité rythmique qui lui permet de rythmer la sécrétion d'hormones, la température corporelle, les moments où on a faim et les moments où il faut aller se coucher, ou au contraire, les moments de grande activité. Et ça, c'est grâce à deux petites structures qu'on a dans notre cerveau qui s'appellent les noyaux suprachiasmatiques. Oui.
C'est costaud. On ne va pas te le faire répéter plusieurs fois.
Qui eux-mêmes alertent l'hypothalamus qu'il est temps de sécréter telles hormones, notamment pour aller se coucher, de la mélatonine pour aller se coucher. Bref. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces neurones dans l'hypothalamus, finalement, sont rythmés sur 24 heures. Et nous, on est calés 24 heures sur nuit-jour. C'est un rythme nictéméral, nuit-jour. Et comment? C'est grâce à la rétine, puisque la lumière frappe notre rétine, qui va aller frapper les noyaux suprachiasmatiques qui vont aller, grâce à l'hypothalamus, sécréter, comme je vous l'ai dit, les hormones, etc. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu dans les années 60 cette expérience d'enfermement de Michel Siffre, qui est resté plusieurs mois dans une grotte dans le noir. Et c'était très intéressant au niveau biologique parce qu'on s'est demandé si ce rythme, cette horloge biologique allait être maintenue en l'absence de lumière. Eh bien oui. Alors elle n'est pas sur 24 heures, elle est sur 24 heures 30. Mais notre cerveau est bien rythmé sur 24 heures et demie pour que nos activités comme ça s'enchaînent toute la journée.
Alors là, c'était la première horloge en quelque sorte.
Oui.
La deuxième, c'est celle du temps épisodique. Alors je veux bien que tu vas nous l'expliquer un petit peu, mais si j'ai bien compris, c'est qu'elle associe... un passage, quelque chose, un souvenir, à un lieu.
Oui. Par exemple, si je te demande, alors c'est peut-être un peu trop facile comme question, mais quand s'est déroulé le dernier podcast, tout de suite dans ta tête, tu vas l'associer. Alors il y a peut-être une date, mais il y a peut-être, ah oui, c'était juste avant le rendez-vous chez le médecin, ou c'était, ou je l'ai fait juste après avoir rencontré. Voilà. Notre cerveau range chronologiquement les événements. Et c'est comme ça qu'on arrive à se souvenir, d'ailleurs. On a une idée, souvent, je ne sais pas si ça vous arrive, mais on vous dit, c'était quand à peu près ? On est capable de dire, c'était à peu près il y a 6 mois ou c'était à peu près il y a 3 mois, sans qu'on ait une date précise. Et ça, c'est grâce, encore une fois, à deux autres structures dans notre cerveau. Alors, accrochez-vous encore. On a le cortex entorhinal latéral.
Encore.
Qui, lui, marque le temps chronologique. Et il est lié à son petit copain qui est juste à côté, qui s'appelle le cortex entorhinal médian et qui, lui, marque le lieu. Donc, nous avons le temps et l'espace qui, tous les deux, vont aller envoyer leurs infos à l'hippocampe, qui est donc la structure impliquée dans la mémorisation, qui va associer les deux. Et donc, l'hippocampe va savoir que le podcast s'est déroulé tel jour, à tel endroit. Et ce sera comme ça que notre cerveau va ranger les épisodes de notre vie, tout au long de notre vie.
Alors moi, mon horloge préférée dans votre dossier, c'est la troisième. Hein, et j'espère que vous allez voir avec la phrase suivante que ce ne sera pas votre ressenti final à la fin de l'épisode, mais on s'était dit, si jamais vous dites « cet épisode était d'un chien, le temps m'a paru bien long », eh bien, sachez que vous avez fait appel à la dernière de nos trois horloges cérébrales qu'on appelle le chronomètre mental. Alors je veux bien, Elena, celui-ci, que tu nous l'expliques dans le détail, parce qu'il est particulièrement intéressant.
Oui, parce que là, je parle d'événements à long terme. On a une conscience du temps épisodique, c'est ce que je disais. Mais c'est encore une fois des exemples de la vie de tous les jours. Vous êtes en voiture, vous arrivez à un feu rouge. Qu'est-ce qui se passe ? On attend au feu rouge. Et vous êtes capable de me dire après si le feu rouge a été long ou court. Mais vous n'avez pas mesuré sur votre montre. Vous le savez. Alors comment on le sait ? C'est qu'à partir du moment où le feu rouge commence, il y a un signal dans le cerveau qui démarre un chronomètre mental et qui est capable d'évaluer de la milliseconde à la seconde. Et ça, c'est très étonnant, ce sont des neurones dans notre cortex qui battent comme ça, de manière rythmique, comme des grains de sable dans un sablier. Et une autre structure, probablement le striatum, on n'en est pas encore complètement sûr, qui évalue ces grains de sable qui tombent dans le sablier. C'est comme ça qu'on peut dire que c'était long ou c'était court. Mmh. Mais le problème, c'est que là, le feu rouge, on est coincé au feu rouge, on regarde le feu rouge. Mais si un événement vient vous distraire, alors le chronomètre mental, disons qu'il est perturbé. Et à ce moment-là, des événements peuvent vous paraître beaucoup plus courts qu'ils n'ont été ou beaucoup plus longs.
Et il y a un petit perturbateur là-dedans qui s'appelle la dopamine, je crois, hein, qui peut venir, selon qu'on s'ennuie ou qu'on s'éclate, troubler notre perception du temps.
Oui, il y a une étude qui a montré chez l'animal, que la dopamine vient complètement perturber ce chronomètre mental. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la dopamine, c'est quoi ? C'est une hormone qui est sécrétée dans le circuit de la récompense. Donc, c'est une hormone qui fait du bien. C'est-à-dire que quand on réussit quelque chose, on sécrète de la dopamine et ça confère un sentiment de
plaisir.
Oui, de plaisir, tout simplement. Donc, vous imaginez bien que notre chronomètre mental, lorsqu'il est activé, dans la vie de tous les jours, mais on est en train de faire quelque chose de plaisant, bien, la dopamine vient perturber le chronomètre et d'un coup, on a l'impression que ce qu'on était en train de faire, par exemple, discuter avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, ça passe trop vite. On a passé une heure, on ne l'a pas vu passer. Bien, c'est à cause de la dopamine qui est venue perturber notre chronomètre mental.
Le temps passe si vite avec vous, il faut que je vous quitte. À très bientôt. peut-être. Oh, vous êtes terrible, je ne connais même pas votre nom.
Et à contrario, si on s'ennuie, est-ce qu'il se passe quelque chose ou le chronomètre juste c'est...
Le chronomètre s'écoule naturellement et le temps nous paraît ce qu'il est.
Donc comme on s'ennuie, il paraît plus long.
Oui, il paraît plus long et là on en revient à ce que Hugo disait.
Anissa, je crois que justement, toi, tu voulais nous parler des vertus de l'ennui. Hein, parce qu'il ne faut pas se dire, du coup, il faut de la dopamine à fond pour ses enfants, par exemple. Mais l'ennui a ses vertus.
Ça peut être une chose formidable, l'ennui, Romain. Tous autour de cette table, aujourd'hui, on a une période de notre vie où on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est le métro, boulot, dodo, réseaux sociaux, les enfants. On a un rythme effréné, le quotidien est très chargé. Et ce quotidien-là ne fait plus de place à l'ennui. On est tout le temps pressé. Et si jamais d'aventure on a quelques minutes, quelques heures où on n'a rien prévu au programme, il faut à tout prix s'occuper. Donc on va binge-watcher une série sur Netflix, on va tenter de récupérer son sommeil quand on devient jeune papa, hein, Romain ?
Exactement.
Et jusque dans les transports en commun, on ne supporte pas de s'ennuyer. Je sais pas, enfin, vous prenez le métro le matin, tout le monde scrolle Facebook, les actus insolites, Candy Crush, tout plutôt que de s'ennuyer. Parce que l'ennui, en fait, on le fuit. L'ennui, comme nous l'explique le petit Robert, c'est cette sensation de mélancolie vague, d'impression de vide, de tristesse profonde, de lassitude morale, quand on ne prend d'intérêt et de plaisir à rien. Bon, forcément, dit comme ça, l'ennui, ça fait pas kiffer. D'ailleurs, c'est ce qui fait que dès l'enfance, on supporte pas de s'ennuyer. Et les parents qui se souviennent de l'ennui qu'ils ont éprouvé quand ils étaient eux-mêmes enfants, font en sorte que leurs enfants, à leur tour, ne s'ennuient pas. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des enfants qui ont tout le temps une tablette entre les mains, 14 000 activités extrascolaires. Pourtant, l'ennui, ça peut être hyper cool. Il a de nombreuses vertus scientifiques, puisque quand on s'ennuie, quand on ne fait rien, le cerveau, lui, il s'active. Il y a des réseaux neuronaux qui vont s'activer. Donc, concrètement, ça va stimuler l'imaginaire, la créativité et la connaissance de soi. Donc, apprendre à s'ennuyer dès l'enfance, à bonne dose, hein, on est d'accord, c'est très bien. C'est peut-être même l'assurance de réussir sa vie, parce que si t'as eu le temps de t'ennuyer quand t'étais enfant, t'as eu le temps de réfléchir à ce que t'aimais, à ce que tu voulais devenir, et donc ta vie n'en sera que plus trépidante plus tard. Et d'ailleurs, on voit par ailleurs que dans notre quotidien hyper stimulé, on a du mal un peu à fixer son attention sur quelque chose, parce qu'on est habitué à recevoir tous ces stimuli de l'extérieur. Je parlais des réseaux sociaux, de toutes les choses qu'on fait pour arriver à s'occuper. Pourtant, arriver à fixer son attention sur quelque chose en dehors des stimuli extérieurs, c'est une capacité cognitive de notre cerveau. C'est être capable, voilà, quand on s'ennuie, quand on est seul avec soi-même, de savoir faire fonctionner son attention en utilisant nos propres ressources cérébrales. Et cette capacité-là, ce sont des capacités qui sont logées dans le cortex préfrontal. Donc finalement, quand on voit qu'on est hyper stimulé, habitué à tous ces stimuli extérieurs, on perd ces capacités-là préfrontale. Donc ça veut dire que en vieillissant, bah forcément tu as cette capacité à stimuler ta propre attention tout seul, ces capacités-là vont s'éroder. Et l'un des effets, c'est qu'on va avoir du mal à se laisser aller à la rêverie. On l'a vu dans un épisode précédent, la rêverie c'est fondamental. Et on verra tout à l'heure que s'ennuyer, stimuler sa créativité, donc stimuler son cerveau, c'est bon pour lutter contre les effets du temps qui passe.
Tu es en train de valoriser les salles d'attente ou les instants où on ne fait rien et où on trépigne. Donc
absolument, il faut savoir redécouvrir la magie de ces petits instants d'ennui.
Tu vois, au début, je t'aimais pas beaucoup. Et bien, puis le temps passe, et moi, je peux te saquer.
Elena, tu reprends la main, on est quasiment dans un épisode de Questions pour un champion. j'ai envie d'élargir un petit peu la question aux animaux. Parce que c'est vrai que, est-ce que mon chien, par exemple, on va dire, on l'appelle Pitou, compte les minutes au moment où je ferme la porte, je vais au boulot, et le moment où je reviens à la maison, est-ce qu'il a une perception du temps, Pitou ?
Il semblerait que oui. On a tous vu ces chiens qui attendent devant leur gamelle, comme ça, en nous regardant. On se dit, ils attendent. Alors, il y avait eu une première théorie, je le dis vite, mais d'une chercheuse qui disait que le chien sentait les odeurs de la journée. Et donc, pouvait savoir à quel moment, parce qu'il y a des odeurs différentes dans la journée, pouvait savoir à quel moment son maître entre. Donc, finalement, il mesurait le temps en le reniflant. Il sentait le temps.
La force de l'odeur, en quelque sorte.
La force de l'odorat. Bon. Mais l'étude la plus impressionnante a été publiée dans Nature Neuroscience en 2018. C'était une première du genre. Elle était très, très élégante, cette étude. C'était chez la souris, pas chez le chien encore. Mais... Donc, prenez une petite souris qu'on met sur un tapis, qu'elle peut faire avancer donc, en trottant. Et puis, elle évolue dans un univers de réalité virtuelle, dans un couloir virtuel. Donc, elle se balade. D'un coup, il y a une porte qui surgit. Donc, elle s'arrête. Bon, et là, elle a le choix. Ou elle continue à bouger, ou elle s'arrête vraiment. Et si elle s'arrêtait plus de 6 secondes, la porte s'ouvrait et elle avait le droit à une récompense. Elle a été entraînée comme ça pendant 6 à 8 semaines. Donc, pendant 2 mois, la souris apprend à s'arrêter. Si elle s'arrête, elle a une récompense. Eh bien, on s'est rendu compte qu'elle y arrivait. Donc, pas toutes, hein. Elles étaient un peu plus de la moitié à y arriver, mais certaines arrivaient à s'arrêter exactement 6 secondes, ce qui veut bien dire, ce qui prouvait que immobile, la souris a aussi un chronomètre mental. Et ils sont même allés jusqu'à regarder dans le cerveau, puisque maintenant on a des microscopes qui permettent de voir en live le cerveau s'activer en activité. Et on s'est aperçu que c'était le fameux cortex entorhinal médian qui se déclenchait dès que la porte se fermait devant elle.
Et enfin, qu'est-ce qu'on va en faire des études comme ça qui portent sur la capacité d'attention ou plutôt de perception du temps chez la souris ?
Alors ça, j'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que, en tout cas, ce que me disait le chercheur, c'est que leur prochaine étape, c'est de vérifier chez le chien, justement.
Et je crois que la salade aussi compte, hein, en quelque sorte. Elle a une perception du temps, mais c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est une blague, hein, mais non. Hugo, tu vas nous prouver que ce n'est pas de l'humour.
Non, c'est très sérieux, en effet. J'ai appris, moi, en écrivant ce dossier, que la salade comptait son amidon la nuit. En fait... La salade, pour vivre, pour se nourrir, elle se nourrit avant qu'on la mange, se nourrit d'amidon. Et à la nuit tombée, elle va avoir toute une période sans soleil où elle ne peut plus accumuler d'amidon. Et pour survivre à cette nuit, elle va rationner l'amidon dont elle dispose en fonction du temps que va durer la nuit. Et donc, les chercheurs montraient avec beaucoup de précision qu'elle, selon le temps que dure la nuit, elle ne fait pas les mêmes divisions. Donc, si une nuit très longue, elle va avoir plus de petites rations et la salade se prête à des divisions complexes, on va dire, pour ne pas arriver en rade d'amidon avant que le soleil ne se lève. Et ce qui est assez fascinant.
J'imagine que durant l'année, il y a des périodes où les nuits sont plus longues.
Les nuits sont plus longues. En hiver, la nuit est plus longue qu'en été. Et en hiver, les rations d'amidon dont elle dispose, elle prend en compte. Et la division en hiver n'est pas la même qu'en été. Voilà, c'est assez... Pensez-y, votre salade compte l'amidon.
Peut-être mieux que votre chien. Donc, c'est l'un des enseignements de cet épisode. Enfin, en tout cas, on attend. Pitou, attends-moi, je rentre. Anissa, on ne peut pas terminer une émission sans conseils pratiques. Souvent, c'est toi qui t'y colle. On continue là-dessus.
Allons-y.
Est-ce qu'on peut ralentir les effets du temps qui passe ?
Absolument.
Bon, ça fait quand même tout drôle de te revoir après tant d'années. Toujours beau gosse. Oh, je parie que tu fais encore des ravages.
Si je vous disais qu'il était possible de vivre jusqu'à 130 ans dans un corps jeune et en bonne santé, est-ce que vous me croyez ?
Moi, je signe.
Ouais.
Moi, je signe direct.
Mais je crois pas.
Alors, promis, j'essaie pas de vous refourguer des petites pilules miracles, ni le pitch d'un mauvais film de SF. En fait, la réponse vient de nos télomères. Les télomères, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petits colliers de perles, grosso modo, des colliers de perles d'ADN qui sont situés à chaque extrémité de nos chromosomes. Et en fait, plus on vieillit et plus la taille de nos télomères raccourcit et l'espérance de vie avec. Alors, grâce à la prix Nobel de médecine Elizabeth Blackburn. Donc cette scientifique a découvert ce qu'on appelle la télomérase. C'est le processus qui permet de rallonger la taille de nos télomères et donc de vivre plus longtemps. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir à enclencher cette télomérase et du coup réussir sa cure de jouvence, pardon ? Il y a quelques petits conseils pratiques qu'on peut mettre en place. Alors effectivement, on revient souvent à des mesures de bon sens et de bonne hygiène de vie, mais le fait est que ça marche. Alors la première chose à faire, c'est de privilégier le fameux régime méditerranéen qui est riche en fruits et légumes, en poissons bourrés d'oméga 3, en fruits à coque. Donc c'est le fameux régime crétois dont on ne cesse de vanter les mérites. Alors il y a aussi, donc S'il y a des aliments à privilégier, il y en a aussi d'autres qu'il faut éviter. Le sucre, c'est notre ennemi moderne, c'est pas bien. Il faut en réduire sa consommation. Pareil pour le sel, qui lui va entraîner un vieillissement cardiovasculaire prématuré. Donc le petit tips, c'est juste d'éviter de poser la salière sur la table au moment des repas. Ça évite d'en rajouter dans son assiette. Et alors là, Romain, c'est l'ex-accro au soda light qui te parle. Si tu veux des télomères de jeune fille, il faut oublier les sodas sucrés, et notamment ceux à base d'édulcorants. C'est mal, c'est très très mal, ça vient ronger tes télomères. Voilà, et alors, juste à titre d'exemple, si tu bois 2 canettes de ce fameux soda chaque jour, ça va réduire ton espérance de vie de 4 ans et demi. C'est quand même beaucoup, donc si il suffit de zapper ça pour vivre plus longtemps, c'est quand même pas mal. Par ailleurs, c'est bien d'éviter le stress. Alors, c'est facile à dire, puisqu'on parlait tout à l'heure de notre quotidien effréné. C'est bien de prendre des pauses pour se détendre, pour s'ennuyer, comme je le disais tout à l'heure, pour lutter contre les effets néfastes du stress. Donc, on prend son petit tapis de yoga, on médite, on prend le temps de se poser en regardant le ciel. Ça vous fera du bien. Et puis, évidemment, il faut se bouger. Il faut faire du sport, parce que le sport, c'est bon pour le cœur. Ça réduit les risques de développer de nombreux cancers, de développer un diabète de type 2. Et puis, du coup, ça libère une petite décharge d'endorphine. Et ça, ça fait pas de mal. Et d'ailleurs, petit exemple, si vous comparez les télomères d'un coureur de 50 ans, donc qui a une bonne activité physique, qui va courir très régulièrement, et que vous les comparez aux télomères de quelqu'un de sédentaire de 40 ans, on verra que leurs télomères ont la même longueur. Donc 50 is the new 40 quand tu fais du sport. Et comme le disait Hugo tout à l'heure, parler des langues étrangères, c'est bien aussi parce que le bilinguisme ou le multilinguisme va avoir un effet protecteur pour le cerveau. Ça réduira notamment tes risques de développer la maladie d'Alzheimer. Donc effectivement, voyager, parler plein de langues différentes, faire des rencontres parce que la vie sociale, c'est primordial aussi pour stimuler le cerveau. Tout ça, ce sont autant de stimulations cognitives qui vont favoriser ton rajeunissement.
Merci beaucoup, Anissa. La boîte à conseils est pleine. Je vais essayer d'appliquer ça pendant les vacances. Je crois qu'on peut appuyer sur le chronomètre mental. On a terminé. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas vu le temps passer. La bonne nouvelle, c'est que ce moment peut encore se prolonger en ouvrant le numéro estival de Science et Avenir. De l'explication de la fin des temps, on parle bien de la fin des temps, jusqu'à des calculs plus ou moins absurdes sur les années dans une vie passée aux toilettes ou à faire l'amour, le dossier réalisé par nos invités et Hazar Kaladbari, spécialiste de physique fondamentale et sciences de la Terre, se picore comme un sachet de chouchou sur la plage. Ça passe tout seul et on en redemande un petit peu à la fin. Entre deux cacahuètes caramélisées, je suis sûr que vous trouverez le temps de glisser un commentaire élogieux ou pas. Et 5 étoiles à 6ème Science dans votre application de podcast préférée. D'ailleurs, si les doigts ne sont pas trop collants, ils peuvent tapoter un mail à l'adresse podcast@20minutes.fr. Je vous promets d'y répondre. Je tourne la tête, je les regarde et ils savent ce qui les attend. Place à des vacances bien méritées pour chacun de nos invités. Elena et Hugo, avant de vous relâcher, je rappelle qu'Elena, tu es la spécialiste de neurosciences, de sciences et avenir, et Hugo, tu en es l'expert santé. Merci à tous les deux.
Merci.
Mes derniers remerciements vont à Anissa, notre journaliste santé 20 minutes, qui a découvert le dossier pas plus tard qu'hier et s'en est sortie avec brio, comme d'habitude. Merci Anissa.
Merci Romain.
À tous les trois, je vous souhaite évidemment de bonnes vacances et je vous dis rendez-vous à la rentrée. Amis auditeurs, depuis vos écouteurs, je vous vois sourciller. Et vous, alors? Eh bien, évidemment que je vous les souhaite bonnes, vos vacances d'été, avec de nouveaux épisodes de 6ème Science pour en profiter comme il se doit. Vacances ou pas vacances, notre rythme de production ne bouge pas d'un iota. Un épisode par mois, avec la régularité d'un coucou suisse.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
À dans un mois donc, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
2,21 gigawatts, mon Dieu!
Recherche, scanner.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
6ème Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.